Cette rentrée s'annonce être celle de l'urgence, de toutes les urgences. Face à la crise sanitaire, il faut vite trouver un vaccin. Face au désastre économique, il faut injecter des milliards d'euros. Face au délitement social, il faut injecter de l'égalité, de la justice, de la fraternité. Face aux enjeux climatiques, il faut passer au tout éolien, au tout solaire. Nous sommes entrés dans le temps de l'urgence permanente. Il faudrait être sur tous les fronts à la fois, autant dire nulle part. Et c'est bien pour conjurer d'ailleurs cette tyrannie de l'urgence que le gouvernement vient de nommer un haut commissaire au plan. Il s'agit, vous l'avez entendu cette semaine, d'essayer de trouver, plutôt de prendre de la hauteur pour penser les enjeux sociaux, économiques et même planétaires dans le calme pour les années, les 10 années à venir. Où allons-nous ? Qui peut le dire ? Et comme chrétiens, nous ne vivons pas hors de la société. Toutes ces questions nous interpellent. C'est évident. Mais, comme chrétiens, nous sommes aussi appelés à penser notre temps, notre société, à penser l'Église, mais aussi à penser notre vie personnelle. Voilà, je retrouve le mot de la pensée qui a été ton fil conducteur ce matin. Retrouver, appeler à penser notre temps d'une manière originale, en nous fondant sur une autre parole que celle de la République, sur la parole prophétique qui nous ouvre d'autres chemins, qui nous ouvre des possibilités peu ordinaires et que notre monde ne peut ni comprendre ni recevoir. Cette parole de Paul qui vient de résonner ce matin dans ce lieu dit qu'il y a urgence. Mais il se pourrait bien que l'urgence biblique ne désigne pas exactement les mêmes réalités que les urgences du monde, de notre société. L'urgence, dans notre passage, est exprimée au moyen d'expressions qui d'ailleurs sont devenues chères au langage des croyants. Des expressions comme « c'est l'heure de vous réveiller du sommeil »,« la nuit est avancée », « le jour est proche ». Et aux Corinthiens, Paul dira dans ce même registre, qu'on peut dire eschatologique, c'est-à-dire en lien avec la fin, « le temps est court ». Vous voyez, toutes ces petites phrases-là disent l'urgence. Mais il reste à savoir de quoi nous parle cette urgence. À quel impératif nous renvoie-t-elle? Je ne sais pas. Faut-il vendre nos biens? Construire des communautés apocalyptiques? Faut-il partir en croisade contre l'incrédulité des masses? Il y a une parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 12 qui traduit bien cette question de l'urgence. Vous vous souvenez, je l'évoque simplement comme ça, c'est la parabole du riche insensé dont le seul problème de vie était de savoir quoi faire de toutes ses richesses. Insensé, lui dit Jésus, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, c'est une parole de l'urgence. Elle nous somme de répondre à la question du sens pour chacune de nos existences. Quel est ce sens? À quoi nos vies sont-elles réellement consacrées? Sur quel fondement reposent-elles? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et face à ce temps qui passe à une vitesse supersonique, face à l'éphémère de nos vies, face à l'éternité, Nos vies pèsent le poids d'une bulle de savon. Il peut être temps de nous intéresser un peu au message de l'urgence évangélique. Et s'il y a eu une urgence pour notre monde, c'est celle d'aimer, nous dit Paul. Aimer. Aimer parce que vous ne savez pas dans quel temps nous sommes. Et face à l'imminence du jour, avec un grand J, Paul, dans le langage de l'urgence, rappelle l'unique priorité, il rappelle l'essentiel de toute vie chrétienne, l'amour du prochain. Alors avant d'aller plus loin dans la compréhension de ce que cet amour du prochain peut signifier, j'aimerais approfondir encore un petit peu, si vous me permettez, cette dimension de l'urgence. Généralement, on sonne l'urgence quand le sommeil, l'inertie, la routine, ou même quelquefois le savoir, ont pris les commandes dans nos vies, ou dans un système. J'écoutais à la radio un prof de philo, Camille Riquier, qui affirmait qu'on ne savait plus croire. Il se rappelait de ses jeunes années à la Sorbonne, à la fac, où de grands professeurs présentaient à leurs étudiants les grands systèmes philosophiques de l'histoire. Les grands philosophes, Platon, Descartes, Nietzsche. Il se souvenait, il en témoignait, de l'impact qu'avaient eu ces cours, ces découvertes, sur sa vision du monde. Il appelait cela, à l'époque, une conversion intellectuelle de l'esprit à la pensée philosophique. Les mots sont forts. Et ce qu'il redoutait le plus, maintenant qu'il était lui-même un grand professeur, c'était de devenir un sachant, un expert, un spécialiste, et non plus un croyant. Au sens profane du terme, dans son langage, c'est-à-dire un homme capable de se laisser impacter, transformer, bouleverser par la pensée qu'il découvre, par le sens qu'il saisit. Ces paroles m'ont beaucoup fait réfléchir. Je me suis converti à Jésus-Christ il y a plus de 40 ans. Je me souviens du choc que cette rencontre avait provoqué dans ma jeune existence. Je me souviens aussi de la passion, du mouvement que ce cataclysme intérieur avait produit en moi et aussi autour de moi. La soif de connaître les Écritures bibliques, ce besoin de dire ma foi à ceux qui croisaient mon chemin, quelquefois au risque d'être lourd. Ma foi, je la disais, et ce besoin aussi de dialoguer avec Dieu en permanence. Je ne savais pas encore que ça s'appelait la prière. Et puis, il a fallu apprendre à faire la route, la longue route de la vie, de la foi et de l'Église, avec des habitudes à prendre, avec des convictions que l'on se forge quelquefois trop vite sur Dieu et sur les autres. Avec ce savoir qui grandit, ces strates de savoir et de connaissances qui viennent remplir notre esprit, notre cœur. Il y a eu les études de théologie. Et peu à peu, tout cela est devenu un quotidien, une tradition personnelle. La foi s'est normalisée dans ma vie. Et c'est précisément là, quand l'évangile devient une chose normale, une activité à faire, une organisation à penser, c'est à ce moment-là que l'urgence fait soudain irruption. Nous avions oublié que la nuit est avancée et que le jour est proche. Tu as oublié ton premier amour, écrira l'apôtre Jean à l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse. C'est beau, c'est fort. Veillez, priez, répète inlassablement les évangiles, comme pour nous avertir par avance que la route va être longue, et pour garder vivante en nous et entre nous cette urgence de la foi. Écoutons sœur Myriam, qui est prieure des diaconesses de Reuilly, communauté protestante. Il y a toujours le risque de laisser le païen qui est caché en nous reprendre ses droits. Tout notre être doit se laisser évangéliser. Des places fortes doivent être reprises à l'ennemi, quelles que soient les formes qu'il revêt et les noms que nous lui donnons. Elles ne seront reprises que par l'expérience du retour, de la conversion. C'est ce que nous dit Paul ce matin. Le jour est proche, le temps est court. Il est temps de revenir à Dieu et de mettre un peu d'ordre dans nos priorités. Vaste chantier. Par quoi faut-il commencer? Et Paul nous renvoie ici, non pas à une recette miracle, il nous renvoie à la vie quotidienne dans laquelle nous sommes englués. Et c'est là, et là seulement, dans la vie quotidienne, que se trouve le combat de l'urgence. Et pour Paul, s'il y a une urgence, au-dessus de toutes les urgences, c'est celle d'aimer son prochain. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de nous passer un produit miracle qui va faire un peu comme on lustre de vieux objets en métal pour les faire briller. Non, c'est pas ça. Paul nous dit, c'est l'amour du prochain qui est l'urgence. Le prochain, c'est qui? Ah, et grande question. Il y a différentes réponses. Qui doit être donc l'objet de notre amour? Certains répondront que le prochain à aimer en priorité, c'est le frère, la sœur dans la foi. Pas celui qui est au dehors de la communauté croyante. Mais Paul va employer ici une formule qui, à mon sens, éclaire bien cette notion de prochain. Au verset 8, il dit « N'ayez aucune dette si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». C'est le mot « hétéros » qui est traduit par « les autres ». L'hétéros, c'est aussi l'étranger, l'étrange. Aimer l'étranger, c'est ainsi qu'on accomplit pleinement la loi, dit Paul. S'il faut aimer les uns, n'oublions pas aussi d'aimer les autres. Le prochain devient alors celui qu'on n'attend pas, vous voyez, l'hétéros, le corps étranger. Si vous connaissez l'évangile, et vous le connaissez, il peut être le samaritain, la femme adultère, le lépreux, celui ou celle qui dérange mon système éthique et ma vision religieuse des choses et des priorités. C'est celui-là que Paul me presse d'aimer au nom même de ma foi en Dieu. Mais encore faut-il bien s'entendre sur ce mot « aimer ». Que signifie-t-il? C'est un mot dans lequel on met un peu plein de choses. Je vais vous proposer une deuxième citation. Martin Luther King, qui a été au cœur d'un combat qui est redevenu ces derniers temps très actuel. King écrit ceci. Pour ma part, je suis heureux que Jésus n'ait pas dit « Ayez de la sympathie pour vos ennemis », parce qu'il y a des personnes pour lesquelles je n'ai aucune sympathie. La sympathie est un sentiment d'affection et il m'est impossible d'avoir de la sympathie pour celui qui m'exploite et menace de me tuer. Mais Jésus me rappelle que l'amour est plus grand que la sympathie, que l'amour est une volonté créatrice, rédemptrice, envers tous les hommes. Fin de citation. L'amour n'est donc pas un sentiment, une émotivité, un coup de cœur. L'amour, c'est ce regard porté sur l'autre, étranger, un regard capable de le reconnaître tel qu'il est et de l'élever au rang, au statut d'enfant de Dieu, de prochain, au-delà de tout ce qui le définit, au-delà de ce qu'il pense, au-delà même de ce qu'il croit. L'amour est inconditionnel et seul cet amour-là rend libre et libère. Un jour, une fée demande à un enfant en quoi il voudrait qu'elle le transforme. Oh oui, s'il te plaît, transforme-moi en écran de télévision. Comme ça, mes parents me regarderont beaucoup. Et si je tombe en panne, ils abandonneront tout pour me réparer. C'est de cette urgence-là qu'il est question ce matin pour nous. Le temps est court, la nuit est avancée, sœurs et frères. Sur quoi portons-nous nos regards? Est-il utile de préciser que, sans revêtir Christ, comme nous y invite Paul, nous n'arriverons à rien? Le vêtement, c'est notre manière d'être au monde. Chacun est vêtu d'une manière particulière ce matin. C'est notre identité sociale. C'est notre présence au monde. Alors revêtons Christ comme notre présence au monde. Revêtons la pensée du Christ. Simplement, urgemment, et laissons-le nous convaincre à nouveau par ce message de l'urgence. Laissons aller nos vies à cette vie en Christ. Il est alors possible que de grandes choses se produisent en nous, dans notre communauté de foi, et là où nous passons nos journées. Revêtons Christ, la nuit est avancée, le jour est proche.